France Inter.
Avant d'être président du Grand Palais et de la Réunion des musées nationaux, Didier Fusilier a enchanté le Nord, tout d'abord en naissant à Valenciennes, puis en dirigeant les Folies de Maubeuge et enfin en étant directeur artistique d'événements culturels festifs dans tout l'île, à travers les projets Lille 2004 et son prolongement Lille 3000, le chef-lieu de la région Hauts-de-France ayant été désigné capitale européenne de la culture en 2004. Il se dirige ensuite vers le sud, c'est-à-dire Créteil, où il prend la direction de la Maison des Arts. En parallèle, il se voit confier l'aménagement et l'animation des berges de Seine du pont de la Concorde au pont de l'Alma. En 2015, il est nommé directeur du parc de la Villette. À la tête de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais à Paris depuis 2023, il entend bien rendre au lieu la flamboyance de son passé de palais de fête. Après plusieurs années de travaux, l'espace créé en 3 ans pour l'exposition universelle de 1900 renaît et accueille en ce moment 2 grandes expositions oniriques. Jusqu'au 19 mars, The Soul Trembles de l'artiste japonaise Chiharu Shiota et jusqu'au 31 mars, Du cœur à la main, splendide exposition consacrée aux inspirations artistiques et créations du célèbre duo italien Dolce Gabbana. Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, 2 beaux catalogues permettent de s'émerveiller à distance. Nous sommes avec un homme inventif, résolu, audacieux et agissant qui aime les parades, les majorettes et les carnavals et qui fourmille de projets réjouissants comme un enfant surdoué qui aurait les moyens de ses rêves. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Didier Fusilier.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Enfin, moi je suis assez enthousiaste par nature, donc c'est vrai que tout simplement, bêtement, arrivé ce matin au Grand Palais, parce que c'est très beau, donc oui, je dirais ça, voilà, c'est tout simple.
Qu'est-ce que l'entité RMN Grand Palais ?
Vous savez, c'est très français, des acronymes comme ça, et qu'on invente en 1875 et aujourd'hui, qui doivent s'adapter à notre temps. Donc c'est la Réunion des musées nationaux. Donc avant, il y avait le Louvre, il y avait Orsay, il y avait Versailles, il y avait tout le monde. Hein, et puis petit à petit, les grands établissements ont pris leur indépendance, sont devenus des établissements publics à part. Et donc là, on est à la tête avec le service des musées de France. On anime 20 structures qui sont à Pau, aux Aisies en Dordogne, à Écouen, à Cluny, enfin voilà, sont des pépites que j'adore vraiment.
Et alors, pendant qu'on faisait les essais de voix hors antenne, vous m'avez recommandé un musée du Moyen-Âge.
Oui, alors Cluny à Saint-Germain.
Cluny, on le connaît, mais un autre.
On connaît, mais alors là, c'est vraiment une merveille. C'est les Aisies, c'est le musée national de la préhistoire. Je vous invite à tous foncer là-bas. Pour y arriver, bon, il faut passer par Bergerac. D'abord, c'est magnifique. C'est à 20 kilomètres de Lascaux. Donc, c'est vraiment le temple absolu de la vallée de la Vézère où ont vécu nos très, très anciens, nos ancêtres. Et c'est une splendeur parce que vous avez à la fois le musée, mais les grottes qui sont autour, qui sont animées aussi par le Centre des Monuments Nationaux. Et on peut encore entrer, comme à Fond de Gaume, dans des grottes où vous avez les originaux, enfin, où vous êtes devant, et là vous n'y croyez pas, enfin des bisons. Et en se disant qu'entre le premier bison et le dernier cheval peint, il y a 5000 ans. Et donc c'est vraiment, je crois, un monde qui est avant l'écriture. Donc on ne sait pas du tout comment ils vivaient. On en apprend tous les jours. Chaque mois, il y a des découvertes de cette grande migration qui est partie de l'Afrique, qui est allée en Asie, qui est arrivée en Europe et qui s'est installée là en Dordogne.
Didier Fusilier, vous avez entre autres créé le festival Exit au MAC de Créteil. Pourquoi ce nom Exit qui veut dire sortie ?
Ben, en fait, c'est parce que j'étais avec mon ami Jean Blaise, on était quelques-uns, ben, on était vraiment très jeunes à l'époque, à New York, je me souviens, dans une sorte de club un peu bizarre.
Et il y avait bizarre comment ?
Ben, bizarre comme à l'époque à New York, c'est-à-dire c'était le transgenre qui aujourd'hui est pas commun, mais enfin bon...
Plus mainstream.
Oui, plus mainstream, mais à l'époque pas du tout. Donc on était plantés là et il y avait Exit partout, parce qu'on se disait, tiens, on va peut-être partir, parce qu'il devait être tard, et on cherchait... voir Exit, je me suis dit, mais c'est un nom formidable, Exit. Et donc, comme c'était vraiment un festival sur de l'émergence numérique, surtout, on invitait beaucoup du Luberlu de l'époque, beaucoup de Japonais, les Dumtype et tout ça. Ça sonnait bien en plus, Exit. Et puis, c'était surtout un moment, vous savez, où il fallait défendre la langue française à fond, et notamment dans les structures subventionnées. Donc, on trouvait qu'Exit, c'était bien aussi.
Vous étiez un peu punk?
Oui, enfin, punk gentil, mais enfin, punk, c'est surtout les artistes qu'on invite après qui se sentaient bien sous cette appellation Exit, ouais. Finalement, parce qu'ils étaient tout, dans leur vie de créateur, toujours très proche de la sortie. Donc là, au moins, ils y étaient, quoi.
Lorsque vous étiez directeur général de Lille 2004, capitale européenne de la culture, vous avez fait collaborer plus de 7000 artistes, accueillis près de 9 millions de visiteurs. Avez-vous toujours vu les choses en grand ou étiez-vous vous-même surpris? Je pense à deux citations que vous avez soumises à un journaliste, deux citations qui vous guident. Celle de l'économiste Paul Delouvrier, « Mieux vaut voir grand, il sera toujours temps de réduire la voilure », et celle des marins du Vendée Globe, « On commence à fond et on accélère progressivement ».
Oui, alors le Vendée Globe, parce qu'on est en plein dedans, les premiers sont arrivés et les autres arrivent et sont pour moi des personnages hors normes qui m'ont toujours fasciné. Et je trouvais ça assez formidable que ce soit vraiment leur devise, quoi. On commence à fond et on accélère progressivement. Nous avons pu reprendre d'ailleurs à la Villette, c'était carrément sur le fronton de la Villette, c'était assez rigolo. Et effectivement, Paul Delouvrier était un grand aménageur, hein, français, c'est lui, on lui doit Marne-la-Vallée, on lui doit les très grands parcs, le boom complet de l'Île-de-France et puis d'autres. Et c'est un personnage au fonctionnaire, mais qui était vraiment... moi, je trouvais ça très fort de dire « Voyons grand d'abord ». Si on commence à s'imiter des débuts avec toutes les contraintes, on n'est pas prêt d'arriver loin. Mais déjà, à l'époque, c'était déjà comme ça. Et donc, reprendre ça, c'était important avec toujours une autre phrase que j'aime beaucoup de Jean Nouvel, qui dit « Tout dépend toujours du contexte ». Et je pense que je n'ai jamais appliqué des recettes, par exemple, du Nord, de Lille, Auberge de Seine, que vous avez cité tout à l'heure, ou la Villette au Grand Palais, même si c'est à côté, c'est pas loin, mais ça n'a rien à voir, en fait. Les contextes sont très importants, il faut jamais l'oublier.
Mais alors, vous n'avez pas répondu à la question, parce que j'ai pas pu citer
ça,
tout ce que vous avez...
comme s'ils vont jamais aux questions.
Non, arrêtez. Parce que j'ai pas pu citer tout ce que vous avez fait. Vous avez fait énormément de choses et vous avez exporté certaines de vos expositions à Shanghai, à Milan. Je veux dire, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit que ça avait dépassé votre vision?
Ben là, on va partir à Osaka, par exemple, avec les moulages, parce que vous savez, l'un des grands trésors de la réunion des musées nationaux, c'est cet atelier de moulage que nous avons avec le Louvre, qui avait été décidé par la Convention 1793, donc vraiment au début de la Révolution française, pour protéger les œuvres au cas de destruction, qu'on en ait au moins une trace par des moules. Et donc, on a gardé ça depuis la nuit des temps, enfin depuis le 19e siècle, et c'est vraiment incroyable. On va partir à Osaka pour l'exposition universelle, et avec toute la bande là, du pavillon France et qu'on remercie beaucoup, avec des moulages de Canova, de Van Driss, des choses inimaginables. Ça va s'appeler Coup de foudre, c'est-à-dire ces deux statues qui se regardent comme si elles se voyaient pour la première fois. Et c'est très très troublant, des statues, parce que ça bouge pas, mais d'un autre côté, c'est plus fort que nous, parce que justement, ça sera là après nous. Et je crois que le public va être assez étonné. C'est un pari du pavillon France, au lieu d'avoir des grands écrans vidéo comme on aura beaucoup un peu partout, on aura ces moulages qui viennent de très très loin.
Alors j'ai deux réactions. La première, c'est que ça a l'air fabuleux. Et la seconde, c'est vous avez raison, vous ne répondez pas aux questions.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Didier Fusilier, en septembre 2023, vous quittez la Villette pour devenir président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Beaux-Arts, c'est comme ça qu'il s'appelle dans son entièreté à Paris. Des travaux conséquents ont eu lieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer en juin 2025? J'ai à côté de moi un plan du palais, plusieurs parties seront livrées à différentes dates, et je sais qu'il y a un endroit de 6000 m² que vous avez imaginé comme un endroit de rendez-vous, accessible gratuitement, de déambulation.
Oui, c'est exactement ça, ce que vous nous dites là. C'est l'idée est de faire du Grand Palais le lieu où on se donne rendez-vous. On se dit, tiens, on se retrouve au Grand Palais à 17h. Sauf qu'avant, on ne pouvait pas rentrer sans un ticket. Et on n'a jamais pu rentrer au Grand Palais, ni sous la verrière, ni sous les arcades, ni dans le bâtiment, les bâtiments intermédiaires, sans avoir acheté un billet. Donc là, on aura 6 à 7 000 mètres carrés gratuits. Donc on entre, il y aura la boutique, il y aura les bars, il y aura Thierry Marx, là, avec son, il y aura Loulou, des restaurants, des bars, des petits bars éphémères. Et je crois que l'idée est d'avoir une... de même pas savoir ce qui se passe au Grand Palais. Vous voyez,
oui, moi, vous voulez que les gens soient surpris.
On y va parce que c'est le Grand Palais qu'on se dit, bah, il y aura, vu l'énormité de la chose, bien quelque chose qui va vous intéresser entre le Centre Pompidou, le Palais de la Découverte, nous, ce qu'on va y faire, les Brésiliens qui vont débouler, enfin bon.
Alors voilà. Attendez, justement, les Brésiliens, parce que vous allez faire un bal brésilien cet été, je crois, et une grande parade brésilienne dans Paris.
Oui, alors ça, c'est grâce aussi à la ville de Paris. Je remercie beaucoup Anne Hidalgo et toutes les équipes qui sont assez délirantes quand même, parce que vous avez un truc formidable qui s'appelle le Carnaval Tropical, que moi j'adore, avec toutes les associations qui viennent d'Amérique du Sud, d'Asie, qui font un grand défilé fin juin, début juillet. Donc là, on va le détourner, parce qu'il n'y a rien de plus drôle que de détourner le sens d'un carnaval, un défilé. Et donc, on va finir entre le Petit Palais et le Grand Palais, et avec cette année, puisque c'est l'année du Brésil, Rio Grande, qui est une des plus grandes écoles de samba, ça va être un grand cadeau que nous fait le Brésil, pour finir, clôturer le grand défilé et finir par un bal délirant sous la verrière.
Vous avez vu le film Big avec Tom Hanks ?
Non.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui est projeté suite à un vœu dans le corps d'un adulte. Mmh. Et en fait, comme il a gardé, évidemment, comme il en fait est un petit garçon, il a gardé son âme d'enfant, puisque c'est un petit garçon, il ne l'a pas gardé. On lui donne un travail où il doit imaginer des jouets, des jeux, des choses réjouissantes. Et ça marche du tonnerre, évidemment. Et j'ai l'impression d'être face à lui quand je suis face à lui. Didier Fusilier. Bah,
souvent, je l'ai déjà dit, mais c'est important de se dire que pense un enfant de 10 ans. Surtout quand vous faites un carnaval avec les gens, parce que moi, venant du Nord, j'étais habitué aux géants du Nord, parce que les géants, quand on est petit, c'est vraiment grand, 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 quoi. Quand on est grand, bon, ça va, mais petit, c'est vraiment impressionnant. Et les très grands géants, même gonflables aujourd'hui, moi, j'ai vu un truc dans ma vie qui m'a très impressionné, c'est la parade Macy's à New York sur la 6e avenue. Ce n'est même pas croyable, avec les fanfares qui marchent à l'envers, les trucs qui arrivent gonflables, les Bugs Bunny et compagnie. Non, mais c'est tout votre univers, en fin de compte, qui déferle, mais à une telle échelle. Et donc, je pense que, effectivement, un regard d'enfant, ça vous ramène à des choses plus concrètes aussi, parce qu'un enfant, mine de rien, c'est relativement concret. Enfin, il faut que ça plaît. Si ça plaît pas un enfant, il s'en va. Nous, adultes, on est polis, donc on reste, mais pas un enfant.
Mais c'est ce que je me disais, parce que les deux expositions qui sont en ce moment au Grand Palais peuvent plaire justement à des enfants, mais ça, on va en parler dans un instant. Votre modèle, en tout cas, pour le Grand Palais, c'est le Victoria and Albert Museum à Londres.
Enfin, j'en ai deux, trois comme ça, mais c'est vrai que là, enfin, quand vous allez à Londres, ben c'est un peu comme ça qu'on peut imaginer le Grand Palais, parce que d'abord, le Victoria Albert, le V&A, comme on dit, est immense, hein, c'est un bâtiment aussi tellement extravagant dans son architecture, et surtout, ben, vous ne savez pas ce que vous allez y trouver, des fois c'est Vivienne Westwood, ça peut être des intellectuels, enfin, ils avaient une grande exposition sur Roland Barthes, par exemple, au milieu de la porcelaine chinoise du 14e siècle, avec des défilés, là ils avaient fait un défilé d'éléphants, enfin c'est complètement délirant. Et la boutique est hors norme, les bars, on n'y croit pas, enfin nous sommes en Angleterre. Et je pense que entrer au Grand Palais, ça doit être en France aussi, il y a pas ce côté, évidemment, surtout moi, je ne suis pas du tout avec le drapeau là, à défendre des valeurs nationales, mais quand même, il y a un peu ce côté délirant français, côté Beaux-Arts, c'était ça l'origine du Grand Palais, c'était la manifestation des beaux-arts et de l'architecture, art déco, et on y va. Le coup de fouet, parce que j'ai appris récemment que les grandes arches, on appelait ça le coup de fouet, qui était le grand geste architectural à l'époque. Et donc, ils font quand même des bâtiments qui sont tellement insensés et qui, aujourd'hui encore, nous enchantent. Et je crois qu'il ne faut pas perdre cet esprit des fondateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les quatre architectes qui ont fait le Grand Palais, qui l'ont bâti en 3 ans quand même, quand on y
c'est
pense,
fou.
Quand on voit la dimension avec les moyens de l'époque, parce que quand on voit les photos, ils sont en haute forme, en petite casquette. Enfin, il n'y a pas les grues, les machins, les Fenwick d'aujourd'hui. Et ils avaient 40 ans. Donc forcément, ils faisaient la fête. Forcément, ils allaient dans les bars. Enfin, vous voyez, parce qu'on voit toujours le truc. Aujourd'hui, le monument historique, ça fait vieux truc. Mais pas du tout. Ces types-là, quand ils ont bâti, quand ils l'ont même dessiné, enfin, ils devaient être quand même bien, bien frappés, je crois.
Un fil, c'est un lien. Un lien qui peut être coupé, noué, ou bien relâché ou tendu. En fait, c'est un matériau très plastique, et suivant la façon dont on l'utilise, il peut exprimer des émotions très différentes.
Jusqu'au 19 mars, au Grand Palais que vous dirigez, Didier Fusilier, on peut voir l'exposition de Soul Trembles de la japonaise Shiharu Shiota qu'on entend là en 2012 sur France 5. En français, ce sont les frémissements de l'âme. Première exposition à ouvrir le bal depuis les travaux. Exposition ouverte le 11 décembre dernier qui embrasse plus de 20 ans de la carrière de l'artiste née à Osaka qui vit et travaille à Berlin où elle était allée initialement pour rencontrer une femme dont le travail l'avait bouleversée, la polonaise Magdalena Abakanowicz. Et je vous laisse nous parler de son œuvre.
Oui, alors c'est un personnage déjà elle-même à rencontrer, très particulière. D'abord, alors c'est pas qu'elle répond pas aux questions, c'est qu'elle est vraiment dans son monde, elle est très en retrait. C'est un personnage fascinant, très très japonaise. Et un jour, elle a abandonné les pinceaux, un peu comme Soulage a abandonné les pinceaux pour les palettes. Elle a pris de la laine et elle a tissé, elle a fait comme des traits de peinture. En fin de compte, c'est traits de laine rouge, noire, de différentes couleurs. Tissent des mondes, en fin de compte, qui se relient ou pas entre eux, racontent des histoires qui nous bouleversent parce qu'on les a plus ou moins connues aussi. Ces histoires, c'est un incendie, c'est la mort d'un proche, ou
sont des rêves. Avec des lits d'hôpitaux qui sont dans des réseaux de fils tendus comme un univers, un cosmos.
Voilà, et alors on se perd parce qu'on ne sait pas où ça finit. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que dès la première œuvre, paf, enfin, il n'y a pas de progression. C'est une artiste qui vient de la performance, effectivement, avec Marina Abramovic, et qui à Berlin, dans cette époque-là, était confrontée aussi à des expériences artistiques qu'on ressent, finalement, en voyant son œuvre, en déambulant, en fin de compte, dans ses écrits, dans ses photos aussi, et puis surtout dans ses œuvres gigantesques qui vont bien dans le Grand Palais, parce que elles prennent des dimensions, sur le Grand Palais, évidemment, c'est plus de 8 mètres de haut sur les galeries, donc, mais alors, c'était un chantier invraisemblable, parce qu'elle crée tout sur place.
Mais alors là justement vous avez cité l'importance qu'a eu pour elle Marina Abramovic, il y a eu aussi Anna Mendieta, Saburo Maraoka et Rebecca Horn, et quelqu'un à qui on l'a comparé et auquel elle a emprunté une phrase.
J'ai l'impression que notre siècle sera un peu comparable, sinon je dis physiquement, comme valeur parmi les autres siècles, parce qu'on dira le 10e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, sera un peu frivole, pas important. Comparé à la Renaissance, au Moyen-Âge, aux archaïques grecs, à tout ce que vous voulez qui était avant et qui sera après.
La révolution surréaliste elle-même disparaissant?
Oui, elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne. Les surréalistes ont eu cet avantage sur les autres, du moins de faire intervenir la matière grise. Ce que les autres ne faisaient pas, surtout en art plastique.
Marcel Duchamp au micro de Georges Charbonnier en 1960 sur France Culture. Et si on vous passe cet extrait, Didier Fusilier, c'est parce que les structures en filet de Shiharu Shiota ont souvent été comparées à l'exposition First Papers of Surrealism conçue par Duchamp à New York en 1942, dont le catalogue vient justement d'être réédité par la librairie-galerie belge Benjamin Pitchal et la librairie française Jean-Yves Lacroix. Et alors, il se trouve que l'artiste japonaise a emprunté la citation gravée sur la pierre tombale de Duchamp, qu'elle l'a pris pour une de ses œuvres. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mort dans son œuvre, puisqu'il est aussi question du corps, de la maladie? Les fils rouges, c'est le sang, elle s'enduit de boue, elle s'est battue contre des cancers, elle met tout ça en scène.
Oui, parce que effectivement, bon, il y a son propre corps. Effectivement, il y a ce combat contre la maladie qui date de 5-6 ans, dont elle est sortie, mais on n'est jamais sûr d'être sorti. Et donc, quand on voit ses barques, effectivement, et ça s'appelle les frémissements de l'âme, c'est vraiment dans son idée. Elle est partie au Japon, dans le sud, autour des petites îles qui sont donc qu'on rejoint en bateau. Elle est partie sur ces barques que l'on voit dans l'exposition. l'expo, en se laissant aller sur le courant et voyons où elle arrivait. Et je trouve que vraiment, effectivement, et moi ça je ne l'avais pas compris, et quand on est notamment dans la première salle, effectivement on se dit, tiens, c'est dans quel sens ? Et en fait, c'est une des forces évidemment de son œuvre, comme l'œuvre qui est pendue vraiment dans le grand escalier monumental que l'on emprunte pour aller dans l'expo, on se retrouve avec ces barques qui volent, on les voit pas, et ce qui est très beau, c'est que c'est énorme, c'est une installation qui doit faire 15 mètres de haut, mais on ne la voit pas. Et on ne la voit que quand on sort. Donc tout est n'est pas complexe. Tout est comme ça à découvrir, subtil. Et Marcel Duchamp, bon, c'est formidable que vous en parliez, parce que Laurent Lebon et le Centre Pompidou ont envie on va montrer une grande exposition pour l'anniversaire du Centre de Marcel Duchamp, effectivement, qui est une reprise aussi de ce qu'il avait fait au Centre Pompidou.
Alors là, j'ai envie de vous poser encore une question sur cet artiste, mais là, ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à une chose que vous aviez faite quand vous avez montré une exposition avec 22 entreprises leaders dans les nouveaux textiles, et qu'il y avait des robes qui s'obscurcissaient quand on s'approchait et qui redevenaient transparentes quand on s'éloignait, et vous avez comparé ça à des Airbus 380.
Ça, je me souviens plus des Airbus 380, mais je me souviens bien des robes, parce que c'était quand même fascinant. C'est-à-dire
leur nez dans ce matériau, en fait.
Ben, en fait, pour peu, simplement qu'on soit nu derrière la robe, donc quand vous êtes à 5-6 mètres, vous la voyez transparente, et dès que vous approchez, elle s'obscurcit. Et donc, vous ne voyez plus le corps. Et c'était dans le cadre de performances assez incroyables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les textiles, on a travaillé beaucoup, parce que la région de Lille est une région très textile, et ça avait été une chose formidable de travailler avec les entreprises très innovantes. Et en France, on est parmi les meilleurs avec ces nouvelles fibres optiques aussi, des nouvelles fibres de lin, par exemple, des fibres d'ananas. On fait avec
le fruit.
Le fruit, qui a sont des vertus de légèreté incroyables, le fil d'araignée aussi, et on vit aussi tous les jours avec ça, avec la pulpe de raisin, par exemple, qui est un matériau qui est hyper léger, la noix de coco.
Ah ouais, mais c'est passionnant. Pour revenir à Chiharu Shiota, autre chose frappante dans son travail, on évoquait le corps, la mort, et quand elle s'est installée à Berlin, elle s'est rendue à l'Aube dans des usines de transformation de viande pour récupérer à main nue, dans deux grandes poubelles, la mâchoire des vaches qui venaient d'être abattues, pour les décharner ensuite en s'émerveillant du sang sur les os blancs. C'est particulier.
C'est ça. Oui, oui. Oui, parce que en particulier toutes les joues, enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Elle s'enduisait de cela. Enfin, ça faisait partie de performances incroyables. Et elle laissait aussi ses peaux macérées. Enfin, c'était quand même on était dans de l'ultra performatif, là. Hein. C'est l'époque de la foire d'Alsbaus aussi, qui balançait des intestins de veau sur le public. Enfin, c'était dans les années 80, en fait. On était début des années 80.
Bon, en tout cas, pour les auditeurs qui ne pourraient s'y rendre, il y a un catalogue relié à la japonaise, si je ne me trompe pas. Chiharu Shiota, et dans un instant, un autre monde onirique.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Je suis avec le président du Grand Palais, Didier Fusilier. Le thème de Gilles d'Ennio Morricone qu'on entend dans « Il était une fois dans l'Ouest » et aussi dans l'exposition qu'on peut voir jusqu'au 31 mars au Grand Palais, du cœur à la main du tandem composé par le créateur sicilien Domenico Dolce et le créateur milanais Stefano Gabbana, où l'on voit la richesse de leurs inspirations puisées dans l'histoire de l'art italien, l'architecture, l'artisanat, les cultures régionales, la musique, l'opéra, le ballet, le cinéma, le théâtre. Et c'est une splendeur, même si on ne s'intéresse pas à la mode, et quel que soit l'art. Je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens pourraient se dire « Ah bah c'est une marque, je n'ai absolument pas les moyens de m'acheter des choses de cette marque comme la plupart d'entre nous ». Mais en fait ça n'a rien à voir avec cela, c'est de la beauté pure, c'est comme quand on va au musée, on ne peut pas s'acheter un Van Gogh, on y va parce que c'est beau. Bah c'est pareil, c'est une splendeur pure et la scénographie est signée Florence Müller. Je vous laisse nous en parler, mais c'était vraiment époustouflant de beauté.
Oui, bah d'abord, Florence Muller est quand même une magicienne. Elle avait fait la grande exposition Dior aussi aux Arts Déco, qui est une splendeur, qui est actuellement en Arabie Saoudite. Mais tout le monde a en mémoire quand on a pu la découvrir. Et là, effectivement, les deux créateurs milanais nous plongent en Italie, en fin de compte. C'est vraiment une histoire d'amour avec l'Italie. On a les cloches de Palerme, à un moment donné, cette salle toute blanche, en faux marbre, en faux tout, parce qu'à Palerme, ils nous ont raconté que c'était des spécialistes de l'imitation de tous les matériaux les plus nobles parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se les procurer, ils ne les avaient pas. Et donc, on est dans cette Italie-là, l'Italie des églises, de la dentelle, d'un certain art de vivre, dans le monde du guépard, dans Visconti, enfin, dans tout ce que l'Italie incarne, évidemment, pour nous, de beauté. C'est Milan aussi, hein, ils sont très milanais. Donc, on a cette élégance suprême, absolue. Je crois que le public s'y trouve bien parce que c'est d'abord effectivement très sophistiqué, mais on n'est pas sur des mannequins qui portent des robes de Dolce & Gabbana, on est dans une scénographie de leur monde à eux. Donc ils ont transposé leurs idées.
Il y a le monde l'Olympe, il y a des religieuses en noir qui donnent une atmosphère fantastique comme dans un film de Dario Argento, il y a des salles de verre et de cristal qui sont incroyables. Il y a des rideaux noirs entre chaque salle, donc à chaque fois qu'on écarte les rideaux, on entre dans un nouvel univers avec une nouvelle musique et un parfum. C'est une exposition sensorielle avec des miroirs partout et beaucoup de références religieuses aussi.
Et beaucoup de céramique aussi. Parfois, on est dans des...
Sicilienne,
totalement colorée. Et ce qui est très beau, c'est-à-dire tout à coup, on est aveuglé, mais par la couleur, pas par la lumière. On quitte le noir, le sombre du gothique et bing, on tombe dans ce truc et on tombe vraiment ailleurs. Et donc, c'est vraiment toute leur source d'inspiration. Ce sont deux personnages extraordinaires à rencontrer aussi. L'un est extrêmement volubile, l'autre ne dit rien. Ils ont amené leur atelier de Milan au troisième étage du Grand Palais, parce qu'on visite le Grand Palais aussi, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire, à la fin, on va là où personne n'est jamais allé, sous les verrières du Grand Palais, et ils ont amené leur... c'est pas des acteurs, ou non, c'est vraiment leur atelier qui est en train de confectionner.
Avec les artisans et les couturiers.
Les brodeuses, les brodeurs, toute la passementerie, et on les voit travailler comme si on était... c'est même pas comme si on y était, parce que c'est leur atelier. En fin de compte, qu'ils ont amené là.
Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit des vêtements où sont reproduits des tableaux de Raphaël, du Titien, de Moroni ou la place Saint-Marc à Venise. Et en effet, toutes leurs sources d'inspiration, et ça va de l'opéra au cinéma.
Un valse. Nemmeno mi fossi messa d'accordo con l'orchestra, principe. Non le pare?
Come?
È un valse. O forse si è già pentito.
No, certo. Ti prego, scusami.
En 1963, Visconti reçoit la Palme d'Or pour son adaptation du livre Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. On entend la scène du bal avec Claudia Cardinale et Burt Lancaster. Le film se déroule en Sicile et ça a été une grande source d'inspiration pour le duo Dolce & Gabbana. Et dans cette exposition, Didier Fusilier, il y a un décor emblématique du film qui a été refait intégralement, la Galerie des Miroirs du Palais Gandhi à Palerme. Ça se prépare en combien de temps une telle exposition? Parce qu'elle vient de Milan, elle est itinérante. Comment est-ce qu'on fait pour refaire une exposition dans un lieu différent? Et avec en plus, dans chaque salle, pas uniquement la scénographie, mais tous les miroirs, tous les murs, les sculptures, les faux, enfin je veux dire les plâtres, les cristaux...
Les stucs, oui. les sols aussi, les marbres au sol. En fait, elle ne devait pas tourner. Elle a été faite à Milan parce qu'ils sont de Milan. Ils n'ont jamais défilé d'ailleurs ailleurs qu'à Milan. Hein. C'est complètement insensé. C'est une maison de couture quand même très jeune. Elle a 35-40 ans. C'est une des plus jeunes qui soit. Elle est à eux. D'ailleurs, elle fait pas partie des très très grands groupes de mode. Donc c'est très spécifique. Et simplement en discutant avec eux, on est parvenu à la réadapter au Grand Palais. Parce que le Grand Palais, en fin de compte, les faisait rêver aussi... comme beaucoup, le Grand Palais leur plaisait, pas parce que c'était Paris, c'était pour aussi ce bâtiment complètement dingue qui n'est pas fini. Parce que le public ne le voit pas, mais les galeries dans lesquelles nous sommes, là, ne sont pas du tout finies. En fait, quand les travaux ne sont pas du tout finis...
Et quand est-ce que ce sera fini? En 2026
en grande partie. On a fini une partie pour les Jeux Olympiques, et ça a donné ce résultat en images extraordinaire, mais il reste plus de 60% du Grand Palais à terminer en travaux. Donc eux, c'en est une partie, et on le sent un peu, on sent que les escaliers par lesquels on monte, bon, il y a un truc qui va pas.
Alors,
oui, c'est vrai. Enfin, bon, nous, on le sent plus que d'autres d'ailleurs, mais il fait un peu froid, puis après
c'est vrai qu'il y a des salles très chauffées et puis d'un coup des salles glaciales.
Voilà, donc c'est pas fini, mais ça fait partie aussi de ce qu'ils ont aimé. Parce que, comme ils disent, quand on entre dans une église, on croit qu'on va avoir chaud, on a plus froid que dehors. Et tout ce monde-là, je crois, plaît beaucoup au public aussi. On n'est pas dans un musée traditionnel, parce qu'il n'aurait pas voulu le faire là. Il l'avait fait au Palazzo Reale, au pied de Duomo à Milan, qui est un autre monde. Et donc, ils ont tout réadapté.
Écoutez, le mot qui me vient à l'esprit, c'est Coruscant, qui a donné la planète dans Star Wars, et ça veut dire éclatant, brillant, et c'est un mot qu'il faut remettre à la mode. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller voir l'exposition, il y a un très beau catalogue qui a été publié chez Rizzoli, où on voit les créations portées par des mannequins, et c'est assez vertigineux quand on voit toutes les tenues vides de corps dans l'exposition.
Moi, j'ai commencé à faire des tableaux. Les premiers, c'était un tableau cible que j'avais fait sur une chemise d'homme. Et sur la cible, je l'avais mis des fléchettes et le spectateur était invité au jeu. Et j'appelais ça portrait de mon amant. Visiblement, j'avais un amant avec qui je ne m'entendais pas très bien à ce moment-là. Et alors, c'était une mise à mort. Alors les spectateurs étaient invités à lancer ces fléchettes. Et après, j'ai eu l'idée du tir. C'était l'idée d'utiliser la violence. C'était l'idée de... Imaginez un plâtre tout blanc et qui saignerait, une sculpture qui saignerait, une sculpture en larmes. C'était ça mon idée.
Didier Fusillier, pendant les travaux de rénovation à Beaubourg qui devraient fermer pendant 5 ans, le Grand Palais accueillera toute une partie de la programmation hors les murs du musée. Dans les futurs projets, il y a une exposition organisée en collaboration avec Pompidou autour de l'artiste Nikite Saint-Phalle qu'on entend en 91 sur France Culture.
Alors, Nikite Saint-Phalle et Jean Tinguely, puisque vous savez, ils vivaient ensemble, oui. Enfin, ils en vivent vraiment ensemble avec Pontus Sultan, qui était le premier directeur du Centre Pompidou, qui les a un peu, pas réunis, mais qui a vraiment aidé à la production de leurs œuvres. Et donc, les trois ensemble vont arriver en juin prochain avec le Centre Pompidou. Et ça va être magnifique, réjouissant, mais aussi sombre aussi, parce que la vie de Nikite Saint-Phalle est d'une vie très... Surtout aujourd'hui, qui nous parle beaucoup. Et je
avec
pense
l'inceste
qu'on va...
qu'elle a subi de son père.
Et donc, c'était pour nous, effectivement, juste derrière Dolce & Gabbana et Shirou Shiota, je pense que cette exposition va trouver aussi un écho assez extraordinaire sur le monde dans lequel on est, finalement, avec toute cette complexité.
Vous allez faire pas mal de collaborations. J'ai lu aussi que le Palais de Tokyo allait fermer en 2027 et vous serez de nouveau lieu d'accueil.
Oui, alors là, ça va être encore un autre. Mais moi, j'adore ça, en fait. Vous savez, moi, nous, en fait, nous sommes, comme dit mon grand ami patron du Zénith, Daniel Colline, nous sommes des tauliers. Nous, on est là pour ouvrir, fermer des portes. Nous, on est les derniers à partir quand tout le monde est, bon, ça veut, les gens titubent un peu. Ben, nous, on est derrière, on ferme la porte pour réouvrir le lendemain matin.
Et vous titubez aussi?
Non, parce qu'on peut pas, parce qu'on doit fermer les portes et les ouvrir. Mais, enfin, bon, c'est vraiment quand même comme ça que je vois un peu les choses. Parce que il n'y a pas de prétention chez nous. On est là pour accueillir des artistes et les mettre en contact avec leur beauté, à ce que le public attend ou surtout n'attend pas. Parce que je crois que ce qui est très beau quand on visite des choses, c'est de tomber sur des choses qu'on ne pouvait même pas savoir que ça existait.
Et ça, vous y tenez à la surprise.
Love me, please love me. j'en crois votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Je reprends confiance, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Love me, je suis fou.
Love Me de Paul Narev dans la 20e heure sur France Inter. Didier Fusilier, le premier disque que vous avez acheté adolescent, c'était celui de Michel Paul Narev.
Ah oui, bah oui, ça m'a fait.
Et c'est le standard de ce soir.
Oui, merci.
Choisi pour vous.
Bah, il est bien. Et... oui. Ça, c'est bien de commencer quand on est petit à acheter un truc qui vous poursuit toute la vie et qui reste finalement assez actuel par rapport à votre propre vie. En fait.
Et voici votre choix musical. Aya Nakamura, la prestation qu'elle a faite aux Jeux Olympiques avec la Garde Républicaine, un remix de ses chansons et de celles de Charles Aznavour. Et c'est ce que vous avez choisi pour l'émission Didier Fusilier.
Oui, parce que bon, moi j'étais comme tout le monde à peu près spectateur de ce truc de fou, quoi, quand même, qui va rester dans les mémoires. Grande parade.
De Thomas Joly.
Oui, Thomas Joly, Thierry Reboul, Daphné Burki, quand même. Bon, il y en a un grand paquet hein, qui ont travaillé, des gens extraordinaires, un talent fou qui ont travaillé à ça, qui se ramassent la pluie battante. C'est-à-dire le pire qu'on puisse imaginer avec le vent, quand on fait une parade, c'est ça. Et là, je me mets à leur place. Et puis alors, ce qui est terrible, c'est qu'au début, il ne pleut pas. On se dit, tiens, on va passer à travers. Et puis tout à coup, ça n'arrête pas. Mais ça n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est même pas une averse. Ce sont des trompes d'eau. Et là, il y a Aya Nakamura qui arrive avec la Garde Républicaine, qui se dandine. Et c'est, pour moi, vraiment la bascule. C'est ce moment-là où on est rentré dans les Jeux Olympiques, où c'est devenu cette fête immense qu'on a tous connue.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi les Coconut Chairs de George Nelson. On parlait d'ananas tout à l'heure et là on parle de noix de coco. Alors j'ai regardé ce que c'était sur internet, c'est comme un triangle incurvé.
Oui, alors quand on les voit, on n'a pas envie vraiment de s'asseoir. Parce que si vous voulez, c'est une pointe, donc vous dites, voilà, les omoplates, la nuque, enfin bon, donc franchement, quand vous asseyez, c'est pire, parce qu'on glisse, on n'arrive pas à s'en sortir.
Oui, mais vous vendez bien le produit.
Oui, 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 alors on peut les acheter hein, chez Vitra, je vous les recommande. Non, mais en plus, c'est vraiment invraisemblable comme forme. Mais quand on est dedans, on ne peut pas être mieux que dans ces fauteuils. On y est bien parce qu'on peut, voilà, s'y pencher. Enfin, on y est, je n'ai jamais vu un autre fauteuil où on puisse avoir une telle attitude de nonchalance qui n'est pas voulue. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être nonchalant dans ces fauteuils, ça fait un bien fou.
Ce qui est étonnant, c'est que dès les débuts, les hommes allaient dans les endroits les plus sombres de la Terre, les plus obscurs, dans les grottes, dans le noir absolu des grottes, pour peindre, et ils peignaient avec du noir. Ils peignaient avec du noir il y a 340 siècles, à Chauvet, il y a encore 180 siècles, à Lascaux ou Pechberle, et ça a continué comme ça. Le noir est une des couleurs d'origine de la peinture. On a toujours raconté, c'est pas moi qui le raconte, c'est la famille qui a été présente, qu'un jour, lorsque je traçais des lignes noires sur un cahier d'écolier, je devais avoir 5-6 ans. On m'a demandé ce que je faisais. Comme toujours on le fait, quand un enfant dessine, on lui dit qu'est-ce que tu fais, mon petit, qu'est-ce que ça représente. Et on m'a demandé probablement la même chose, et j'ai répondu de la neige. Et ça a produit une telle explosion de rire, de la neige avec du noir. Or, je pense, mais c'est une explication que je vous donne maintenant, je pense que je devais essayer de rendre le papier plus blanc.
Bien sûr.
Le papier, c'est gris, finalement.
C'est logique.
Plus blanc, en mettant du noir à côté, qui, par contraste, l'éclaire.
Alors, profitons-en, Didier Fusilier, pour faire un petit tour de quelques expositions à venir dans les musées nationaux. Au musée du Luxembourg, il y aura une exposition consacrée à Pierre Soulages, qu'on entend là en 2009 au micro d'Alain Seban, alors président du Centre Pompidou, où avait lieu une rétrospective de l'artiste.
Oui, ce sera une très belle opportunité de découvrir les couleurs, les bronzes, pas l'ultra noir de Pierre Soulages avec Alfred Paquemont. Et puis j'ai eu cette chance de rencontrer Colette Soulages, son épouse qui a 103 ans et qui est incroyable à voir. Vous savez, ils ont eu 80 ans de mariage. Là, ça laisse quand même pantois et c'est un couple. Et je crois que l'œuvre qu'on nous allons montrer au musée du Luxembourg va être une grande surprise pour le public. C'est vraiment sublime.
Il y a un terme, parce que depuis tout à l'heure, on parle de fêtes, de parades, d'émerveillement, de surprises. Il y a un terme aussi qui revient quand on se penche un peu sur vous. C'est un terme architectural de folie. Les folies de Maubeuge, que vous dirigez en 90, et les folies rouges de la Villette. Alors, qu'est-ce qu'une folie?
Ben, une folie, c'est d'abord un concept. Enfin, ça vient d'assez loin, en fait, contre les folies. Bon, il y avait les folies au XVIIe qu'on trouvait dans les parcs. Il y en a une, d'ailleurs, qu'on peut encore voir au jardin du Luxembourg, Ermenonville. Et puis des bâtiments insolites, enfin, des bâtiments qui ne servaient surtout strictement à rien. Et donc ça fait du bien aussi de se dire qu'il y a quand même des types qui ont été capables de penser à des bâtiments, mais qui n'ont aucune utilité. Et aujourd'hui, aller défendre des choses pareil, ça semble tellement incongru. Toujours la première question qu'on vous pose, c'est à quoi ça sert? Et donc, quand vous dites, rien, bon, déjà, on n'ose plus aujourd'hui, et là, c'est pour ça que ça m'a toujours plu. On a créé aussi les microfolies, là, il y en a plus de 700 en France maintenant, avec la Villette, ces petits objets qui montent des trésors dans des petits villages, dans des salles de classe, et qui sont connectés à notre temps. Et donc, c'est un mot, effectivement, que j'aime bien. Voilà. Et souvent on dit les folies, enfin dans le Nord, parce qu'on les confond toujours, c'est avec les gâteaux, avec la crème chantilly, enfin les petites crèmes. Et quand je les vois dans les supermarchés, je me dis, il y a aussi des types qui ont été capables d'inventer un truc totalement insensé, quoi. C'est-à-dire cette crème chocolat avec la crème chantilly au-dessus, emballée. Voilà. Enfin, ça participe du même esprit, en fait.
Merci Didier Fusilier.
Ben, merci à vous, surtout.
Au Grand Palais en ce moment, je rappelle, deux expositions jusqu'au 19 mars de Soul Trembles, les frémissements de l'âme de Chiharu Shiota, et jusqu'au 31 mars du cœur à la main de Dolce Gabbana, et des catalogues si vous ne pouvez pas y aller. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, la technique, Ronan Mahé.